et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Ravi de vous retrouver dans ce dialogue des religions sur VOA Afrique, Eric Manirakiza en votre compagnie. Bienvenue et bonsoir chez vous. L'émir de Kano au Nigeria veut légiférer contre les hommes sans moyen de prendre plus d'une femme en vue de statuer sur les problèmes liés au mariage. Lamido Sanusi, ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria et chef religieux influent dans le nord du pays, initiateur de la nouvelle loi, cette loi, a affirmé qu'un lien a été établi entre la polygamie, la pauvreté et le terrorisme. Qu'en pensez-vous? Les riches devraient-ils en avoir plus d'une femme? Que dit l'islam en termes de mariage? Pour en parler, je suis avec mes confrères et consoeurs. Je commence à ma droite, c'est Nathalie Barge. Bonjour Nathalie.
Bonsoir. Bonsoir Eric.
Bonsoir. Kadiatou Traoré, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Et à ma gauche, c'est Idriss Fall. Bonsoir Idriss.
Et bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs.
Voilà, Kadi, vous avez entendu l'intention de cet émir de Kano. Qu'est-ce que vous en pensez?
S'il veut légaliser la polygamie, les hommes qui n'ont pas les moyens, moi je pense que c'est déjà rallier ce que dit la religion musulmane et au fait réel. Parce que il est dit dans la religion musulmane, en tant que musulmane, à ce que je sache, c'est que la polygamie est permise, mais à l'homme, mais il faudrait avoir les moyens. Avoir les moyens, ça veut dire quoi? C'est mettre chaque femme dans son foyer et créer le foyer pour chaque femme chaque épouse. Et c'est les mettre dans une concession à part et leur donner les moyens et être vraiment partial entre les épouses.
Est-ce que ceux qui ont les moyens ont-ils l'obligation d'avoir plus d'une femme?
Non, c'est pas une obligation d'avoir plus d'une femme. Et c'est une conception si c'est personnel, la décision est personnelle. Tu n'es pas obligé d'être polygame. On n'est pas obligé d'être polygame. La religion n'oblige personne à être polygame.
Vous êtes musulmane, est-ce que vous permettriez, par exemple, à votre mari de prendre une seconde épouse?
Pourquoi pas? Si ma religion permet. Moi, je ne pourrais pas. Je suis musulmane et je suis originaire de l'Afrique, de l'Ouest.
Mais si je puis me permettre, la loi stipule aussi que si l'épouse, la première épouse, n'est pas d'accord, elle a le droit de dire non. En fait, ça aussi, c'est dans l'islam. Donc, vous avez aussi, notamment, et d'ailleurs, c'est une loi qui est pratiquée dans plusieurs pays, même au Maroc, par exemple, vous avez, c'est pas parce qu'on est musulman qu'on doit accepter la seconde, la troisième, etc. Logiquement, la première femme doit donner son avis. Elle doit dire si elle accepte.
Mais
ou pas.
Généralement, Nathalie, généralement, on se retrouve en face de notre société. Il y a la religion qui est là et il y a la tradition aussi et la société aussi.
Il y a
aussi.
La culture aussi.
La culture qui nous tient aussi. Et généralement, tu ne verras jamais de femme dire que non. Même si la femme dit non, la société va obligera toujours. En face de la société,
mais
tu peux rien
ceci
faire.
Dit, non,
ceci, dit,
compris,
oui. Ceci dit, ce ne sont pas seulement les musulmans qui sont polygames, il y en a aussi dans toutes les religions. Idriss Fall, comment vous appréhendez cette question de polygamie sur le plan social surtout? Parce que si on ne va pas rester à parler, à interroger à ce que dit l'islam à propos...
Non, ce que dit l'islam, en fait, les gens, ils font de l'amalgame. Parce que, en fait, dans l'islam, personne ici ne peut dire que c'est écrit que tu as le droit de prendre quatre femmes. Les gens qui interprètent le Coran le font sur la base de le prophète Mohammed. Lui avait plusieurs femmes. Mais nulle part dans le Coran, on a écrit que tu dois ou ne pas droit prendre trois ou quatre femmes. Mais sur le concept de la polygamie, il faut le remettre dans un contexte historique, en sens que les femmes aussi étaient considérées comme des objets, en fait. et que donc l'homme a le droit d'en prendre jusqu'à 4 dans certaines interprétations. Et généralement, quand on en arrive à permettre qu'un homme se marie avec 4 femmes, contrairement à ce que Nathalie dit, c'est que même la première épouse n'a pas droit à la parole dans ce cas-là. Et la société fait tellement de pression que, en fait, quand un homme décide de prendre 2, 3, 4 femmes, les femmes n'ont pas droit à la parole. Et dans le cas du prophète, tout le monde sait qu'il avait une relation assez privilégiée, particulière, avec la fille d'un de ses amis qui s'appelait Aïcha. D'ailleurs, il est mort chez Aïcha, qui était, tout le monde le sait, une de ses préférées. Et que même en suivant les enseignements de l'islam, on sait que traiter avec égalité l'ensemble des femmes, c'est déjà extrêmement compliqué.
Je sais que dans nos sociétés, en Afrique, dans la région des Grands Lacs, par exemple, autrefois, des hommes avaient beaucoup de femmes parce qu'ils avaient beaucoup de propriétés et ils avaient besoin de mettre quelqu'un qui devrait s'en occuper parce qu'ils devraient faire le tour de plusieurs collines. C'était ça. Et d'ailleurs, l'émir d'Okano, il dit « Nous avons vu les conséquences économiques créées par les hommes qui sont incapables d'avoir une femme et qui en prennent 4. Ils font facilement 20 enfants et ne sont pas capables de les éduquer. Ils les abandonnent dans la rue et ils finissent entre les mains des terroristes. » C'est le constat de l'émir d'Okano.
C'est un constat sur la pauvreté. Effectivement, on peut difficilement s'imaginer, en effet, tout le monde aujourd'hui, d'ailleurs les jeunes le savent, les jeunes en RDC avec qui nous parlons beaucoup, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne se marient même pas, qui n'en ont même pas une femme, une seule, parce que à cause de la pauvreté.
C'est leur choix.
Non, parce que en fait c'est un constat de société, un constat de pauvreté. C'est-à-dire que effectivement la question peut se poser, si l'on est pauvre, est-ce que l'on peut se permettre d'entretenir tout ce beau monde? C'est la question qu'on peut se poser.
Nous avons un auditeur déjà en ligne, c'est Nassif Adeshoubou qui nous appelle de Brazzaville. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Oui, vous dites que vous êtes d'accord avec l'émir d'Okano?
Oui, moi je suis parfaitement d'accord avec lui. Tant plus que l'on remarque aujourd'hui que les hommes qui n'ont pas les moyens financiers pour prendre 3 à 4 épouses, comme le conseil l'islam le font, et ces filles-là vont souffrir dans les foyers. C'est le constat amer que l'on constate aujourd'hui.
Qu'est-ce qui se passe chez
donc,
vous, à Brazzaville?
Les dirigeants religieux, vous dites?
À Brazzaville, c'est le même constat. Allô? Vous nous entendez?
Allô, je vous écoute.
Je vous demandais si à Brazzaville, il existe ce genre de situation.
Oui, il y en a. La polygamie, elle est légiférée à Brazzaville par le droit. Les musulmans en particulier est recommandé par le prophète Mahomet, et on se rend compte qu'aujourd'hui les gens font de ça une vilainerie. En islam, ce qui est recommandé, c'est qu'en islam, pour avoir 3-4 femmes normalement, pour être polygame, il y a des conditions que les fidèles musulmans ne respectent plus. C'est ce qui est désolant, monsieur.
La polygamie est légale, est légalisée. Est-ce que y a-t-il des conséquences sur le plan social que vous avez déjà remarquées? Est-ce que les gens sont conscients de ces conséquences?
Oui, les gens sont conscients, bien sûr, de ces conséquences-là. Mais tant plus qu'aujourd'hui, on se rend compte que des messieurs qui n'ont pas les moyens financiers, comme le dit le cheikh religieux, c'est eux qui peuvent permettre le vilain luxe de prendre 3-4 femmes. Et après, c'est tout ça souffrir, ces femmes-là, qui sont difficiles de cette loi religieuse, mais que les gens s'interprètent mal, selon
moi. Je voudrais simplement ajouter une chose, il faudrait recadrer les débats. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire d'être riche ou pauvre. Parce que le riche peut se payer le droit d'avoir un harem, comme on le voit dans certains pays arabes. Il est riche. Mais le fond du problème, c'est la considération et la place de la femme à l'intérieur de ces sociétés. C'est-à-dire
absolument.
Partout,
absolument.
Elles sont toutes considérées comme des objets qu'on peut acheter et que on a fait un harem, quoi. C'est-à-dire 3, 4, 10, 20. Et l'autre conséquence, Eric, c'est que Le mari qui doit passer deux jours, c'est sa première femme. Deux jours, c'est sa deuxième femme. Deux jours, c'est sa troisième femme. Deux jours, c'est sa quatrième femme. Ça fait huit jours qu'il n'a pas le temps physique de rester éduquer ses enfants. Et la déperdition scolaire des enfants qui sont nés de familles polygames, c'est quand même, les effets, c'est désastreux.
Et moi, je voudrais justement revenir sur ce qu'Idrissa vient et sur ce que notre auditeur a dit, le fait de considérer la femme comme un objet. D'ailleurs, on l'entend très souvent, on l'a entendu tout à l'heure de la part de l'auditeur, il a dit prendre 3 à 4 femmes. Déjà, rien que les termes utilisés, prendre 3 à 4 femmes. On dit même plus les épouses, on dit une femme, on dit la prendre 3 à 4 femmes. Donc ça, déjà, dans les termes, c'est vraiment effectivement considérer la femme comme un objet. On la prend comme un objet. Et pour revenir sur ce que disait Idriss, le fait de passer quelques nuits avec ses différentes épouses a aussi... Essayons de l'imaginer à l'inverse, n'est-ce pas, que ce soit une femme qui fasse comme cela avec plusieurs maris, je pense qu'on appellerait ça de la prostitution.
Il y a des sociétés ou des tribus en Afrique centrale, Idriss le sait,
où il y a la polyandrie.
Oui, absolument, oui.
Oui. Avant de vous passer la parole, Kadiatou, je voudrais juste poser une petite question à notre auditeur de Brazzaville, s'il est encore là. Est-ce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur ou ça diminue?
En Islam, commander, c'est 4 femmes.
Je pense qu'il y a un problème de connexion téléphonique, Kadiatou.
Moi, ce que je voudrais ajouter à ce que Idriss et puis Nathalie vient de dire, c'est que la polygamie, c'est une réalité sur le continent africain et elle n'est pas appliquée seulement en Afrique. On rencontre la polygamie ici, il y a une ethnie ici, il y a un groupe de personnes ici aux États-Unis.
Les Mormons.
Les Mormons et puis les Amish qui font de la polygamie. Et là, moi, je...
Mais l'Église officielle l'a interdite, hein, des Mormons, il faut le préciser.
Même si elle est interdite, ils le font quand même, ils continuent à le faire. Et c'est des gens qui vivent dans une communauté fermée et les enfants, ils ne les amènent pas à l'école, mais on donne une autre éducation aux enfants et puis aux femmes et qui vivent ensemble. Ça, c'est autre chose. Bon, maintenant, sur le continent africain, on attribue la polygamie à la religion musulmane. Moi, je dirais que c'est vraiment...
Mais non,
elle n'est pas musulmane.
Ce n'est pas honnête.
Elle n'est pas musulmane.
Parce qu'elle
est traditionnelle, cette polygamie en Afrique.
C'est la culture.
Bien sûr, on rencontre des polygames partout. Moi, j'ai vu sur le continent africain des chefs religieux protestants, les pasteurs
traditionnels
qui se marient, qui ont 4 femmes.
Mais oui, absolument.
Légalement, ils sont chrétiens. Et donc, dire que c'est musulman, vraiment, moi, je pense qu'il faudrait faire la nuance et sortir de là.
L'islam la cautionne tout de même. On ne peut pas dire le contraire.
Dans les années...
L'islam la cautionne parce que dans la tradition musulmane, elle est permise. Mm-hmm. Et comme Idriss l'a bien dit, les gens se basent sur les hadiths. Mm-hmm. Hadith, c'est quoi? C'est les fêtes, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et les gens se basent sur ça pour le faire.
Jusque dans les années 70-80, il y a eu beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont nés hors mariage, des gens qui n'avaient pas une deuxième femme ou une troisième femme d'une manière légale, mais qui, par après, des familles se sont retrouvées avec d'autres enfants. On ne va pas... nous focaliser sur ce que dit telle ou telle autre religion. Revenons sur les conséquences plutôt que Idriss a déjà...
Elles sont dramatiques.
Oui. Et pas seulement les enfants, les épouses aussi.
Elles sont dramatiques. Moi, je donne un exemple. T'as dit, j'ai beaucoup d'amis qui sont polygames. Maintenant, j'ai 63 ans. Mais quand je vois le degré de haine contenu qu'il y a entre les femmes, parce que elles rivalisent d'ardeur pour plaire au mari. Et ça inclut détester l'autre. C'est une rivale. C'est ma co-épouse, on les appelle. Au Sénégal, il est arrivé même que l'une prenne de l'huile bouillante et jette ça sur le visage de l'autre. Et cette haine-là qui tue, elle est transposée chez les enfants. C'est-à-dire, voici des enfants qui viennent d'un même père, mais qui se détestent, sont capables même de pires méchancetés à l'intérieur d'une même famille.
Ça se transmet de génération en génération.
Et qui crée beaucoup de frustration même dans la société africaine.
C'est horrible.
On va à Bamako pour recevoir notre auditeur qui est en ligne. Ibou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez la parole, Ibou.
Tout d'abord, je m'avais salué l'homonyme du premier époux du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est Khadija, dont vous avez l'homonyme là-bas sur la table là-bas ce soir.
C'était la première femme, pour ceux qui ne le savent pas.
Et j'aimerais pas interrompre M. Fall, mais il y a le Coran qui précise bien qu'un homme a le droit de garder beaucoup de femmes dans sa vie.
Ibou.
Et dans le sourate Mariam,
Ibou.
Que je peux souligner, dans Ibou. Le paragraphe 13 et 14.
Ibou.
Je continue, ce qui n'est pas dit dans le Coran, ça c'est la bigamie qu'on appelle autrement en Asie la polyandrie. C'est une femme soit mariée à deux hommes, cela n'est pas du tout.
C'est quand même moins courant. C'est quand même moins courant.
Musulmane.
C'est quand même moins courant.
Et je rappelle encore qu'en Afrique, bien avant l'arrivée de l'islamisme, il y avait la noblesse qui était là. Les nobles qui étaient en Afrique s'abstinaient à ne pas faire de l'adultère, étaient obligés et se donnaient l'autorisation de marier beaucoup de femmes, soit par des mariages parentaux, soit par des mariages qui venaient par la bravoure, soit des mariages qui venaient pour la conquête des chefferies traditionnelles en Afrique.
Ibou,
l'écoute, oui.
Sur le plan social maintenant, il y a par exemple l'émir d'Okano qui dit « La nouvelle loi qu'il veut introduire va mettre les hommes face à leurs responsabilités en ce qui concerne leurs enfants. » Est-ce que vous pensez que des hommes qui ont plusieurs femmes ont le temps de s'occuper de leurs enfants ?
Je parle pas du moyen économique du autre moment du monde et le monde actuel. Et pour pouvoir essayer d'éduquer et donner des très bonnes éducations à des enfants de nos jours, parfois il faut s'abstenir à rester à un nombre qui vous permettra de donner une vie meilleure à ces progénitures dans cette vie où nous sommes en train de vivre. Après ça, sinon que l'islam n'a jamais dit de ne pas marier beaucoup de femmes. Et nous prenons l'exemple sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait gardé beaucoup de femmes, qui avait même d'autres femmes qui étaient dans sa cour, en considérant que ce sont ses femmes. Or, ils étaient des esclaves qui sont venus dans sa maison, il les gardait comme ses épouses.
Ibou,
écoute.
Oui, personnellement, est-ce que vous prendrez une seconde femme?
Moi, si l'occasion me présente, rien ne m'empêche de ne pas prendre. Hein.
Il y a Nathalie qui veut réagir. Nathalie, oui, vous avez 30 secondes qu'il y a un autre auditeur qui attend.
Oui, quand même. Je voudrais quand même réagir parce que il faut quand même dire les choses comme elles sont. À un moment donné, si on parle toujours du passé, autrefois, les textes disent, etc., etc., mais les réformes existent, et les réformes des esprits existent notamment, et c'est ça qui est important. Il faudrait peut-être commencer à traiter la question de la polygamie sous l'angle des droits humains, c'est-à-dire et les droits des femmes et les droits des enfants, et peut-être qu'on pourrait un petit peu avancer dans la discussion.
Oui, on peut avancer ou peut-être ne pas avancer parce que ceux qui l'acceptent, c'est aussi leur droit. Nous avons un auditeur en N'Djamena, c'est Archiduc Théodore. Bonsoir.
Bonsoir.
Archiduc, vous avez la parole.
Voilà. Pour moi, la polygamie, c'est d'abord une question de moyens. Avoir plusieurs femmes, c'est bon. Mais il faut pouvoir le prendre en charge, c'est-à-dire attirer le bien. Sinon, au moment où on a plusieurs femmes et qu'on n'est pas à mesure de les prendre en charge, attirer tous leurs besoins, c'est pas du tout bien. D'autant plus que ces femmes-là vont mettre au monde des enfants. Et si jamais on arrive à prendre en charge tous ces enfants, ça sera synonyme de problème de délinquants, de fabriquer des délinquants qui vont devenir des bandits dans la vie. Être
Archiduc,
Archiduc,
mais vous avez vu des conséquences sur l'avenir même des familles et des enfants. Une haine qui s'installe, le problème d'éducation. Vous avez suivi Idriss Faye qui l'a souligné, Kadiatou et Nathalie.
Effectivement, et dans ce cas, lorsque par exemple le papa meurt,
les enfants.
C'est horrible.
Mais ça, c'est une très mauvaise conception.
Lorsque le papa meurt, pour les histoires d'héritage, surtout s'il a laissé un peu d'argent ou un petit peu de terrain, mais les enfants,
ils sont
capables de s'égorger pour prendre tout ce qui reste. C'est ça la polygamie. C'est qu'on ne le dit pas assez. Au nom de la religion, au nom des traditions, nous laissons perpétuer dans nos pays des pratiques de notre âge. Vraiment. Et qui font du tort aux enfants.
Ça cause beaucoup de drames dans
notre pays. Qui font du tort aux enfants, qui font du tort à la société.
Et d'un point de vue statistique, il est dit quand même que dans le monde, il y a plus de femmes que d'hommes. Enfin, il y a plus de femmes que d'hommes, mais c'est 50-50, on va dire. Hein. C'est 50-50. Mais imaginons si une majorité d'hommes prennent 4 ou 5 femmes, on va retrouver peut-être un petit problème au niveau des couples.
On retourne à Bamako. C'est Malik, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Très rapidement, votre point de vue.
Moi, je voudrais parler au niveau de la responsabilité.
C'est ça.
Voilà, parce que quand, dans un couple... Le mari est toujours responsable. Et le code du mariage du Mali précise que chaque femme constitue un foyer. Donc, ce que fait une femme, on doit le faire pour les autres, obligatoirement et de façon impartiale. Donc, moi, je pense que l'homme doit prendre ses responsabilités pour chaque épouse.
Mais,
c'était mon point de vue.
Mais Malik,
je crois savoir que peu avant la chute du régime de Amadou Toumani Touré, il y avait un code de la famille qui était en vigueur là-bas au Mali. Il a été changé par tous ces grands marabouts qui sont là-bas à Bamako, qui avaient rassemblé je ne sais pas combien de milliers de femmes pour imposer un recul à la femme malienne. C'est le code actuel qui est en vigueur, que Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas encore touché ni l'Assemblée du Mali. Est-ce que je me trompe?
Non, personne...
Ce code n'a pas été encore adopté.
Ça n'a pas été adopté, hein, en fait. Nous sommes toujours avec l'ancien code. Ils ont seulement pris quelques articles dedans pour essayer de faire des réformes sur les droits de la femme. Sinon, le code reste en tant que tel. Nous avons le même code de mariage depuis les indépendances. Ça n'a pas été changé. Ils ont refusé, en fait, les différentes associations de des fédérations musulmanes ont refusé à ce qu'on touche à ce code. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, la femme dans les sociétés, le statut, quand on regarde quand même le statut et puis le rôle de la femme dans nos sociétés, ils sont traités comme des objets et tout ça. On ne veut pas que la femme aille et prendre de l'envol dans nos sociétés.
Le président Kadhafi avait interdit.
Exactement.
Absolument.
La polygamie.
Ouais.
Et dire qu'il était un grand musulman. Et s'il a pris les dispositions pour interdire la polygamie, ça veut dire que
Ce que voulait dire Idriss, c'était peut-être qu'il y a en ce moment, quand même, on peut noter dans certaines régions un recul peut-être à ce niveau-là. Et peut-être
reléguer la femme derrière.
Un dernier auditeur qui est en ligne, c'est Bakary Keïta Bamako, toujours. Bakary, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez la parole, Bakary.
D'accord, bon, c'est un thème vraiment riche. Hein. Moi, je crois que la polygamie, vraiment, c'est-à-dire c'est pour ceux qui le font vraiment, pour eux, la polygamie a des avantages. Surtout dans les milieux vraiment culturels, c'est-à-dire dans les milieux vraiment agro-pastoral. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup de femmes, vous allez avoir beaucoup d'enfants. Si c'est des hommes, les hommes vont s'occuper des hommes.
C'est une ancienne pratique.
Mais il faut plutôt envoyer les enfants à l'école.
Il y a tellement des conséquences énormes là. Mm-hmm. Et la polygamie vraiment arrivée, parce qu'il est facile de gérer une famille nucléaire qu'une famille étendue. Par exemple, vous avez déjà soulevé les problèmes par la déperdition scolaire, par exemple. Si vous n'avez pas assez de moyens, vous ne pouvez pas suivre vraiment les enfants. Tu vois donc, les enfants, ce sont ces mêmes enfants qui meurt quand même lors de la traversée quand même des déserts, que ça soit vraiment dans la mer Méditerranée, vous voyez.
Moi, je voudrais quand même rajouter quelque chose pour les femmes africaines, là, parce que si vous voyez que ce problème-là perdure, c'est parce que les femmes même veulent de cela.
Bien sûr.
Elles ne font rien pour sortir de cela.
C'est des ça. Femmes, des il femmes faut, le veulent,
et,
oui.
Et certaines en profitent
il faut,
aussi.
Il faut en avoir conscience.
Il faut en avoir.
Est-ce qu'elles n'en ont pas moi, je
il
pense
que
parce que les hommes vont aller chercher des femmes en dehors des foyers pour vraiment. Vous voyez, ça commence par là.
Je dois vous lire quand même ce commentaire de Martin Bidoubois. Il dit cette nouvelle loi est un acharnement contre l'authenticité africaine. C'est ce qu'il dit. Priver un Africain authentique le droit d'épouser plus d'une femme revient à lui ravir la vie. Cette vision trouve son fondement dans la philosophie africaine qui souligne avoir une femme équivaut au célibat. Ou encore, les enfants sont une richesse, Idriss.
Voilà.
Bon, moi, personnellement, en tant qu'Africain d'origine musulmane, je suis contre la polygamie et que le jour où ce sera interdit, je vais dire bravo pour la libération des femmes.
Il y a un journaliste sénégalais, c'est Oumar Ndiaye, qui conçoit la polygamie comme la pire forme des violences faites à la femme. Il dit « Il n'y a pas pire violence morale et psychologique pour une femme que d'être obligée d'accueillir et de faire place à une coépouse dans son espace conjugal et familial et dans son intimité. La polygamie, source de frustration, d'humiliation, de troubles de comportement, de haine, de drame, de cruauté entre femmes, souvent transmise en héritage aux enfants, est la pire des violences psychologiques et morales exercées par les hommes. » Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure.
Il n'est pas seul à le dire. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses ONG de défense des droits humains qui considèrent effectivement cela comme une violence, au même titre que, par exemple, l'excision ou bien d'autres problèmes dont les femmes et les enfants sont victimes.
Mais on rencontre aussi des intellectuels africains qui sont polygames. Il faut le signaler aussi. Des ministres dans les gouvernements qui sont polygames, qui acceptent même de venir en seconde noce.
Il y a un certain Zuma qui est là-bas en Afrique du Sud. Il a combien de femmes?
Il est président de
l'Afrique, voilà. Alors, président polygame.
Les femmes cautionnent la polygamie en Afrique.
On ne va pas poursuivre ce débat. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. Mais vous auriez entendu qu'il y a beaucoup, beaucoup de drames dans les familles à cause de la polygamie. Il faut en avoir conscience et limiter les dégâts dans vos foyers. Au revoir, Eric Mandakiza. On vous retrouve la semaine prochaine.